Divergence FM, l'interview.
Amy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette interview société sur Divergence FM. Tu es membre du collectif Nous Toutes 34 et nous réalisons cette interview dans le cadre de notre partenariat avec votre collectif qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le tout dans des valeurs d'inclusivité et de non-abolitionnisme, c'est ça ?
Oui, c'est ça, voilà.
Alors nous allons parler ensemble et aujourd'hui d'une notion qui est un petit peu compliquée et qui est importante. On va dire qu'on va parler dans un ton de prévention et de pédagogie, on va parler de la culture du viol. Déjà, même si c'est difficile, on va peut-être tout simplement partir sur la définition du viol. Qu'est-ce qui, au regard de la loi, est qualifié de viol ?
Alors, au regard de la loi, un viol, c'est tout acte sexuel avec pénétration, donc buccale ou vaginale ou qu'importe, réalisé sous contrainte, menace ou surprise.
En quelques mots, comment est-ce que tu définis cette notion de culture du viol ? Est-ce qu'on parle en fait de banalisation du viol, de la sacralisation de la victime, de la figure du bourreau ? Que penser du fait qu'on parle de criminels malades quand on sait qu'en réalité, ils ne le sont pas tous forcément ? Comment on fait les contours de cette notion ?
Déjà, on pourrait qualifier la culture du viol comme l'ensemble d'attitudes et de comportements qui vont minimiser, normaliser ou encourager le viol. Donc par exemple, de dire que les agresseurs sont malades, alors qu'on le sait, selon les enquêtes, c'est à peu près 10% des viols, ça constitue la culture du viol dans le sens où on a cette vision du violeur qui est un monstre de pulsion irréfrénable, alors qu'on le sait aujourd'hui, c'est plus une construction sociale et un élan de domination où le sexe n'est qu'un outil, au final, dans cette domination.
Est-ce que tu as d'autres exemples qui pourraient par exemple parler aux plus jeunes d'entre nous et qui nourrissent cette culture du viol en fait ?
Bah, par exemple, quand une victime va parler de son viol et qu'on lui demande comment elle est habillée, et donc d'expliquer que la tenue peut potentiellement justifier le viol. D'ailleurs, on le sait grâce à des enquêtes comme Ipsos, 42% des Français pensent que l'attitude provocante atténue la responsabilité du violeur. Ça, c'est de la culture du viol. Tout ce qui va donner des excuses aux violeurs, que ce soit l'alcool, qui est dans la loi un phénomène aggravant, ça constitue de la culture du viol parce qu'il n'y a qu'un seul coupable, c'est l'agresseur.
Ça, on sait, surtout au moment où est sortie l'affaire Double Peine, on sait que c'est par exemple les personnels qui recueillent les témoignages des victimes ne sont pas encore assez sensibilisés à cette question, assez formés. Est-ce que des choses sont mises en place ?
Alors, il y a des cellules qui commencent à être mises en place spécialisées, notamment avec les pré-plaintes sur Internet, où c'est des gens qui sont formés à ça. Et je sais qu'il y a une volonté, avec les manifs qu'il y a eu à Montpellier particulièrement, de créer une cellule formée et de faire des formations internes pour accueillir au mieux les victimes, parce qu'effectivement, il y a des très, très gros problèmes au niveau des dépôts de plaintes.
On a vu, par exemple, dans les commissariats, je ne sais pas si c'est le cas pour les gendarmeries, mais cette mise en place-là, on ne sait pas trop quoi en penser, il y aurait deux files d'attente stigmatisées dans les halls des commissariats et des commissariats, en tout cas, en disant que les personnes qui sont victimes de violences sexuelles seraient... Voilà, mis à part, est-ce que ça veut dire qu'on sait déjà qu'elles vont être prises en charge par des personnes formées ? On n'est pas sûr de ça.
On n'est pas sûr de ça, et puis surtout le problème que j'y vois moi, c'est que c'est déjà extrêmement difficile d'intégrer soi-même qu'on a été violé, c'est un mot qui est difficile à poser. Aller porter plainte demande aussi énormément de courage, d'énergie, de force, et donc en plus ça veut dire marquer visuellement qu'il nous est arrivé ça, et qu'on va pas juste porter plainte, et quand on est violé, il y a beaucoup de victimes qui ne veulent absolument pas qu'on le sache, et donc du coup je pense que ça pourrait être très préjudiciable sur le plan psy pour les victimes.
Oui, parce que pour les victimes, il y a un vrai phénomène d'humiliation et de honte.
De honte et aussi de peur de ne pas être cru, parce qu'on le sait, la majorité des viols, c'est dans la famille, c'est dans les amis, c'est dans le cercle proche. Donc il y a quand même un énorme poids à porter. Et puis souvent, encore plus quand c'est dans les familles, quand il y a une victime, il y en a plusieurs, donc c'est compliqué.
Est-ce qu'on sait qu'il y a des pays en Europe ou même hors de l'Europe qui sont déjà plus avancés sur cette question-là, qui ont plus réfléchi, qui ont plus travaillé ?
Il y a des pays comme l'Australie ou le Canada qui aussi ont d'autres formes de justice. Après, au niveau des plaintes, j'avoue, je ne sais pas. Mais plus une autre forme de justice que la justice restaurative qui est mise en place en France aussi, mais qui est très, très peu démocratisée parce qu'on va vraiment aller mettre de l'humain dans des actes monstrueux. Et ça, c'est compliqué encore aujourd'hui.
Est-ce que tu peux définir en quelques mots ce qu'est la justice restaurative ?
Alors la justice restaurative, ça, donc en France, ça va concerner donc des personnes victimes et des agresseurs qui ont été condamnés et qui sont sortis de prison, mais qui ont un suivi psy avec la SPIP. Et on va se rencontrer autour de groupes de parole, donc encadrés par une psy, par deux personnes neutres et par la SPIP, où on va pouvoir échanger sur nos expériences, sur ce qui s'est passé, etc. Et donc du coup avoir une vision de comment on en arrive là, comment un violeur en arrive à violer, comment vit la victime, et ça permet d'être reconnu dans sa souffrance par des agresseurs, et c'est vraiment thérapeutique, je trouve.
À l'intérieur de cette question de la culture du viol, on pense beaucoup aux femmes victimes et aux hommes criminels. Pourtant, on sait que c'est une question qui touche aussi et les hommes et les personnes trans, par exemple. Est-ce que ça fait partie de la globalité de la question, du questionnement, en fait?
Je pense que la culture du viol, ça touche tout le monde parce qu'on est vraiment dans ce climat dans la société. On a tous eu des pensées ou des paroles pro-culture du viol parce qu'on baigne vraiment dedans. De se dire « Oh mon Dieu, celle-là, comment elle sort ?» ou « Oh, celui-là, faudra pas s'étonner. » On a tous eu cette petite pensée ou penser qu'un viol peut avoir un malentendu, par exemple. C'est un truc qui revient très souvent où « Elle a pas dit non », ce genre de choses, ou « Il a pas dit non », ce qui est très préjudiciable, surtout sur les adolescents aussi parce que c'est compliqué de dire non face à quelqu'un d'autorité. Et tout ça, je pense que c'est des pensées qu'on a tous eues et qu'il faut vraiment arriver à le regarder en soi et à vraiment bien définir le consentement pour comprendre la culture du viol.
Est-ce que tu dirais que la culture et les arts ont une place aussi dans cette question et cette lutte contre la sacralisation quelque part de cette ou en tout cas l'installation systémique de cette culture du viol, en fait. Je pense à un film comme Irréversible. Est-ce que vraiment c'est une bonne chose une scène pareille?
Donc non, pas du tout. La culture populaire, mais ça sur tous les domaines du sexisme ou des oppressions, a une énorme place parce que tout ce qu'on voit va nous socialiser. Et Irréversible, c'est un très très bon exemple. La ruelle sombre, l'inconnu, la rue, le viol dans le débat, où on se débat, où on hurle, c'est vraiment des cas qui sont minimes, ça montre pas du tout la réalité. On a une histoire d'une sorte de glorification du viol qui est très malsaine. Par exemple, les viols conjugaux, on n'en voit jamais alors que c'est une énorme partie. Donc il faut vraiment sortir de ce truc que le viol, c'est vraiment le monstre, l'inconnu dans la rue, parce que vraiment, encore une fois, la majorité des viols, et on parle de 70 à 80%, se situent dans l'intrafamilial et l'intra-amical, et après les soirées, ce genre de choses.
Oui, et puis à mon sens, à moi qui suis plus proche, par exemple, de la culture littéraire, il faut aussi se méfier de l'érotisation du viol, en fait, et d'en faire des scènes ambiguës qui sont pas loin du plaisir, en fait. Quand on tombe sur des chiffres tels que 23% des 18-24 ans pensent que les femmes prennent du plaisir à être forcées, on retombe sur des problématiques d'éducation, en fait.
C'est ça, et ça on se le retrouve des petits. Qu'est-ce qu'on dit à des petites filles quand il y a des petits garçons qui les embêtent à l'école et qui leur tirent les cheveux? Oh, c'est rien, ils t'aiment bien. On normalise la violence comme si il est violent envers moi, donc ça veut dire qu'il m'aime bien. Et ça, c'est vraiment dès le plus bas âge, on le voit. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer parce que ça fait partie vraiment des causes où on en arrive après à des conséquences comme le viol qui est un crime.
Ça retombe sur des questions, ça peut aller jusqu'à l'hypersexualisation de la question du corps des petites filles, en fait. C'est le problème n'est pas l'habit, le problème c'est le regard.
C'est ça, on a vu, j'ai une petite fille qui est en sixième, et une des premières règles qu'on nous a données quand on a fait la réunion parents-prof, c'est qu'il faut faire attention à comment ils s'habillent. Alors j'ai demandé des précisions, on m'a dit pas de jupe trop courte, pas de décolleté. Du coup je me suis interrogée, et pour les garçons, on dit non mais c'est pour tout le monde. J'ai dit oui, c'est sûr que les garçons mettent beaucoup de jupes et de décolleté. Ils peuvent, mais au collège je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a vraiment ce truc de, voilà, il ne faut pas, comment ils avaient dit, il ne faut pas perturber les garçons. Mais le problème demeure bien dans le regard lubrique et non pas dans la personne qui s'habille à 43 degrés en mini-short, surtout quand on a 12 ans.
Alors, pour ne pas laisser les publics émis sans ressources face à cette problématique, est-ce que tu as des outils à donner, des choses à lire qu'on pourrait relayer sur notre site internet?
Alors, sur KRN Info, il y a un énorme dossier sur la culture du viol. Il suffit de taper culture du viol et KRN Info et on peut te trouver. Sinon, il y a une énorme enquête de Ipsos, donc on a cité avec le 18%, où vous tapez Ipsos culture du viol. Et pareil, il y a une énorme enquête qui a été faite avec vraiment des analyses sociologiques derrière quand on regarde l'enquête en entier. Et sinon, vraiment, tout ce qui va être formation sur le consentement, parce que comprendre le consentement, ça va pouvoir aussi permettre de comprendre la culture du viol, parce que quand on a compris ce que c'est le consentement, on voit la culture du viol où elle est. Et pour ça, par exemple, nous toutes fait des formations gratuites disponibles en ligne sur le site du National.
Ok, très bien. Je rappelle que on peut vous trouver, nous tous 34, sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Instagram, une page Facebook, un compte Twitter, me semble-t-il. Et puis, vous êtes toujours à l'affût. Vous avez toujours besoin de nouvelles recrues, j'imagine.
Oui, toujours. Vraiment, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. On est super sympa. Et on sera à Paul Valéry pour le Festival des discriminations, où justement, on fera un atelier sur le consentement. Donc, si vous voulez venir voir ce que c'est le consentement, n'hésitez pas.
Très bien. Merci beaucoup, Amy.
Merci à toi.